Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de toi, si je puis dire, puisque je reçois aujourd'hui Flora Salambien, qui est la représentante de la communication, la responsable des communications de l'association Avec Toi. Alors, Avec Toi, il s'agit du toit qu'on a sur la tête. Et c'est bien important de le préciser. Alors, bonjour Flora.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette association Avec Toi?
Alors, bonjour à tous. Je précise juste que je suis coordinatrice des activités de l'association au sens général et donc pas...
Pas seulement la communication.
Pas précisément la communication. Mais voilà, c'était juste une petite précision. Donc, l'association Avec Toi, c'est une association qui a été créée en 2019 à l'initiative de quelques citoyens montpelliérains engagés militants qui hébergeaient en fait chez eux des personnes migrantes sans droit et qui ont souhaité promouvoir, dupliquer, essayer d'étendre en fait ce principe d'hébergement solidaire chez l'habitant pour des personnes qui sont exclues de tous les dispositifs de prise en charge existants actuellement. Et donc l'histoire a un petit peu commencé comme ça, par une initiative vraiment personnelle qui se passait super bien et pour laquelle du coup les personnes ont voulu monter une structure dédiée pour le défendre et le promouvoir.
Alors, donc, quand on dit personnes sans droit, hein, donc des personnes en situation d'immigration qui n'ont pas encore les autorisations de séjour et ainsi de suite, qui ne sont pas passées, leur dossier n'a pas été traité par l'OFPRA, hein, l'Office français des réfugiés et apatrides, si je me souviens bien. De protection, voilà, Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Alors, pour préciser, c'est pas tant qu'ils ne sont pas encore passés par cette étape que cette étape n'a rien donné. C'est-à-dire que la plupart du temps, les cas de figure qu'on rencontre, c'est des personnes dont la demande d'asile a été refusée pour tout un tas de motifs qu'on peut juger justifiés ou pas. En ce qui nous concerne, on considère que ça n'est pas justifié et que du coup, une fois que les personnes ont été refusées dans leur demande d'asile, elles sont exclues des CADA, donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Pendant qu'elles font leur demande, elles sont hébergées et accueillies, mais dès que c'est refusé, on leur demande de partir. Et c'est là qu'il n'y a plus aucune solution, alors que des recours administratifs peuvent se faire avec des avocats. Il y a tout un tas d'associations qui accompagnent dans les recours juridiques pour essayer de revenir en fait sur ce refus, des appels qui peuvent être faits, des nouvelles demandes de titre de séjour qui peuvent être formulées. En fait, voilà, encore tout un tas de possibilités pour les personnes d'essayer d'avoir des papiers en France. Et quand on est dans cette circonstance, il n'y a rien qui existe en fait pour mettre les personnes à l'abri. Donc elles sont... entièrement dépendantes du 115 qu'elles doivent appeler tous les jours et qui, comme on le sait, à Montpellier est complètement... À Montpellier et ailleurs, d'ailleurs, complètement saturé. Donc, j'ai eu très récemment une rencontre avec une chef de service du SIAO qui est donc pilote le 115 à Montpellier et donc qui a très bien expliqué la situation. Ils reçoivent
SIAO, si je sais service.
SIAO, c'est structure d'insertion et d'orientation.
Accueil et orientation.
Voilà.
Donc qui reçoit les demandes d'hébergement d'urgence et qui va orienter sur les différents CHRS, qui va essayer d'organiser un petit peu que gens ne débarquent pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
C'est ça. Et donc, ils reçoivent, si je me souviens correctement des chiffres, 380 appels par jour, avec une moyenne entre 0 et 10 places disponibles tous les jours. Donc, voilà, ça donne une idée quoi, de ce qu'il est possible de faire quand on appelle le 115 le matin. En fait, la plupart du temps, il n'y a déjà même pas de place... dès le début de la journée, pour personne, quoi.
Oui, puis alors ça permet aussi, ce que vous dites, permet de mettre le doigt sur les dysfonctionnements de l'administration des lois et des dispositifs en France, puisque refus de demande d'asile ne signifie pas une obligation de quitter le territoire. Elle peut arriver par la suite, mais ce n'est pas automatique. Par contre, il tombe dans un vide juridique administratif complet. Il n'y a rien.
C'est ça.
Rien n'est prévu, rien n'est pensé.
En termes de prise en charge, il n'y a plus rien. Alors, on peut continuer à être suivi par une assistante sociale. On peut continuer à faire des démarches avec les associations comme la CIMAD, RESF, etc., qui accompagnent beaucoup les personnes dans ce type de situation. Mais pour ce qui est vraiment du logement, c'est vide complet. Donc, c'est là que nous, on essaye d'intervenir avec nos quelques moyens et nos quelques ressources qui ne sont pas non plus extensibles, mais l'idée était de boucher ce trou, pallier ce manque.
Oui, et puis je crois qu'il n'y a que les mineurs où là la loi oblige l'État est obligé de leur fournir, de les mettre à l'abri.
Alors oui, pour les MNA, donc les mineurs non accompagnés, c'est une situation bien spécifique qui est différente, c'est-à-dire que les MNA sont pris en charge par le département. Et là encore, on constate énormément de dérives. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y a une politique maintenant qui consiste à remettre en question quasiment systématiquement la minorité et donc de déclarer que la personne ment et qu'elle n'est pas mineure. Et même qu'elle produit de faux papiers d'identité, puisque sur ces papiers d'identité, c'est marqué qu'elle est mineure. Et donc, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle les enquêtes PAF, des enquêtes police aux frontières, qui doivent en fait déterminer par où la personne est venue, quel a été son parcours, etc. Et donc, de remonter sur son âge exact, tout un tas de polémiques sur les tests osseux, etc., qui sont complètement... qui sont faits dans les hôpitaux sur des critères des années 50. Enfin, on sait très bien que ça ne veut rien dire du tout.
Des années 50, avec un public occidental,
complètement,
si je puis dire.
Complètement, voilà,
là,
c'est ça.
Là, on change
fait.
De... Donc, c'est pas valable, quoi. Oui.
Et donc, pendant ce temps d'enquête qui peut parfois durer 2 ans, les jeunes n'ont aucune prise en charge, du coup, puisqu'on attend le résultat de l'enquête. Donc, elles ne vont pas à l'école. Elles sont complètement livrées à elles-mêmes et laissées à l'abandon. Et surtout, le pire, c'est qu'il y en a aussi, malheureusement, qui, du coup, ont été incriminés et mis en prison au motif qu'ils avaient produit de faux documents d'identité et dans des prisons pour adultes, puisque, du coup, on considérait qu'il n'était pas mineur, alors qu'après, il a été bien avéré qu'elle l'était. Donc, on a des jeunes de 14 ans qui ont fait 6 mois de prison à Villeneuve-les-Maguelones avec les adultes. Voilà.
Charmant accueil que l'on réserve aux immigrés, décidément.
Ça fait plaisir.
Voilà. Oui, ça fait froid dans le dos. Écoutez, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler avec toi, et puis de vos partenariats, et puis du quotidien de l'association aussi. À tout de suite, pas. Ça va aller vite.